Chapitre 11. Malgré la brutalité avec laquelle sa mère l'avait mise à la porte, ça avait été pour Angèle un gros chagrin de passer la soirée et la nuit en dehors de chez elle. Il lui semblait que c'était un acte d'émancipation dont rien ne pouvait excuser l'audace. Aussi, dès le lendemain matin, poussée d'ailleurs par Henri, qui ne voulait pas encore une rupture complète, elle s'était décidée, malgré ses craintes, à réintégrer le domicile maternel. La vieille avait probablement fait de son côté de salutaires réflexions, car en voyant rentrer la jeune fille, elle ne lui demanda ni où elle avait couché, ni pourquoi elle se permettait de reparaître dans cette maison d'où elle avait été chassée. Angèle tremblait de peur. Néanmoins, elle se mit tranquillement à vaquer aux soins du ménage, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Plusieurs semaines s'écoulèrent ainsi. Puis, un beau matin, à brûle-pourpoint, la mère demanda « Qui est le père de cet enfant ?»« Mais maman, balbutia la pauvre petite, je croyais que tu savais, c'est le garde général des forêts. »« Quoi ? Un garde ? Un paysan alors ?»« Non, monsieur d'Agincourt, le garde général qui est employé à la direction des forêts du département. »« Un bourgeois en ce cas ? Un monsieur ?» « Oui. »« Eh, fallait donc le dire, petite sotte !» s'écria joyeusement la mère. « Je ne t'aurais pas grondée pour si peu. » Angèle saisit immédiatement toute la portée de cet aveu et sentit une nausée de dégoût lui monter aux lèvres. Cependant, elle ne crut pas devoir protester et déjà elle se remettait à l'ouvrage lorsqu'une voisine entra. « Je ne peux pas venir à bout de monter mes rideaux. » « Toi qui te connais en couture, Angèle, tu serais bien aimable de me donner un coup de main. » « Bien volontiers, » s'empressa de répondre la jeune fille en suivant la voisine. Alors celle-ci, dès qu'elle fut seule, tira de sa poche une lettre qu'elle tendit à Angèle. « Tiens, souffla-t-elle, voilà pour toi, de la part du monsieur. L'histoire des rideaux n'était qu'un prétexte, il fallait bien trouver un moyen. Lis vite, c'est pressé, paraît-il. » Pendant qu'elle la poussait dans sa chambre pour que les locataires du même couloir ne vissent rien, la jeune fille lisait les deux lignes tracées au crayon. « Je vous attends chez moi. Il est nécessaire que je vous parle ce matin. Le plus tôt sera le mieux. Henri. » Ces quelques mots, pourtant bien naturels, lui donnèrent un frisson de fièvre. Mais elle se ressaisit tout de suite, se prépara à la hâte, et quelques minutes après, elle était chez Henri. Le jeune homme, l'air profondément affligé, était debout devant son secrétaire, en train de ranger des papiers. « Ah, merci, ma bonne petite Angèle » fit-il en apercevant la jeune fille. « J'ai voulu vous voir sans retard, car je viens d'apprendre une bien triste nouvelle. Mon oncle Albert est mort cette nuit. Hier encore, se sentant plus malade, il m'écrivait de faire le voyage de Lunéville. Il désirait, disait-il, m'avoir près de lui à ses derniers moments. » Son désir n'a pu être exaucé. Le télégramme annonçant la fin est arrivé en même temps que sa lettre. Pauvre oncle, je l'aimais bien. Il était si bon pour moi. » Tout de suite, Angèle tendit les mains à son amie avec un généreux élan de tendresse compatissante. Le coup qui frappait Henri ne l'atteignait-il pas? Bien que, personnellement, elle ne pût pas pleurer le mort à peine connu d'elle, la sympathie qui l'unissait à son amant était si vive que le spectacle de sa douleur lui fit monter des larmes dans les yeux. « Tu ne te le rappelles pas, mon oncle ?» murmura le garde général. « Si, si, elle se rappelait parfaitement ce monsieur décoré qui était venu passer 15 jours au commencement de l'été, ce grand vieillard à la physionomie avenante et loyale qu'elle avait rencontré 2 ou 3 fois se promenant sur les allées au bras d'Henri. » Mais ce qu'elle avait surtout retenu de lui, c'était sa bonté, son indulgence. Il compatissait à leur tracas, à leur misère. Seul, il soutenait son neveu, il approuvait sa conduite, il appuyait ses projets. C'était donc pour eux un grand malheur qu'il eût disparu. Lorsqu'ils eurent tous les deux, à tour de rôle, évoqué les qualités du défunt, ils se turent, s'absorbèrent dans leur tristesse. Pendant quelques minutes encore, Henri classa des papiers dans son secrétaire, puis tout à coup il dit « Me voilà riche maintenant, je suis légataire universel de mon oncle. une dizaine de mille francs de rente, comme il me l'avait dit. Le visage de la jeune fille se couvrit d'une pâleur soudaine. Elle regarda Henri d'un air consterné, puis, cachant son front dans ses mains, elle fondit en larmes. Le jeune homme était tombé à ses pieds. « Angèle, ma chère petite amie, qu'y a-t-il? Qu'ai-je dit pour te causer tant de chagrin? Pardonne-moi si c'est de ma faute. Voyons, ma chérie, je t'en prie, calme-toi, explique-moi. » Mais plus il suppliait, plus Angèle sanglotait. Alors il écarta doucement ses mains, essuya ses pleurs avec des baisers, et à force de bonnes paroles, de caresses, il finit par arracher aux lèvres de sa maîtresse cet aveu. « Puisque vous êtes riche, vous pourrez sans doute vous marier comme vous le désiriez autrefois. »« Me marier, moi ? Oui, certainement, ma chère enfant, je me marierai, non pas comme je le voulais jadis, mais comme je le désire actuellement. C'est vous qui serez ma femme. C'est même pour cette seule raison que j'accepte la fortune de mon oncle, pour renverser plus facilement les obstacles qui pourraient nous séparer. « Oh non !» s'écria la jeune fille, « je ne veux pas que vous compromettiez pour moi votre repos, votre honneur. »« Mon honneur, Angèle, consiste à être votre mari. »« Vous pouvez faire maintenant un brillant mariage. » Sans doute, bien des portes qui m'étaient fermées jusqu'ici s'ouvriraient grandes devant moi, toutes grandes. Mais je n'aurais que du mépris pour ces avances intéressées. Puisque l'argent est tout, j'emploierai, moi, celui que Dieu m'envoie à vous conquérir. « Oh, non, non, Henri !» supplia la jeune fille. « Si, si » répliqua-t-il d'un ton affectueux mais ferme. « Faudra-t-il donc que je vous épouse de force, vous aussi ?» Et comme elle n'osait plus rien dire, il reprit « Allons, il faut que nous nous séparions. J'ai besoin de me préparer pour partir cet après-midi. Au revoir, ma chérie, dans une huitaine. Je t'écrirai d'ailleurs d'ici là. » Il l'embrassa tendrement, mais Angèle, tout en lui rendant ses baisers, restait glacée par l'idée de ce départ, comme si cette absence de 8 jours dût briser quelque chose entre eux.